Seigneur notre Dieu, à nouveau nous te le demandons ensemble. Nous avons besoin d'être visités dans l'intelligence de notre cœur, d'être soutenus dans notre écoute, guidés dans ce que nous partageons. Mais nous voulons te dire que nous comptons sur toi. Bénis ces moments encore. Nous voulons laisser libre action à ton esprit dans chacune de nos vies. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce et gloire. En Jésus-Christ. Amen. Reprenons le verset 8, si vous voulez bien. Daniel chapitre 1, verset 8. Nous aurons l'occasion, dans notre conclusion demain, de prendre la fin de ce chapitre 1. Mais simplement maintenant, le verset 8, Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous le remarquez, dès son arrivée à la cour, Daniel prend une décision courageuse. Littéralement, c'est d'ailleurs ainsi que la version Darby le rend pour développer une des nuances du texte original. Il arrête dans son cœur. Il arrête dans son cœur de ne pas se souiller. Et cette souillure concerne la nourriture et la boisson servie à la cour. Une première remarque tout de suite, d'emblée. Daniel ne considère pas que la question de nourriture soit secondaire. Il ne considère pas que l'on puisse passer outre. Et là, il s'adresse à nos raisonnements. Parce que nous avons ce genre de raisonnement, qui, avec une certaine habileté, essaie de faire la différence entre ce qui nous paraît essentiel et ce qui nous paraît secondaire. Mais en étant très subjectif, parce que ça nous arrange. Lorsque je parle de ces choses dans mon pays, en France, j'insiste davantage, parce que vous le savez, la cuisine française, elle est bonne. Pourquoi Daniel fait-il ce choix ? On a avancé toutes sortes de raisons. Là aussi, les commentateurs ne sont pas toujours très d'accord les uns avec les autres. Certains évoquent le fait que la viande ait été au préalable consacrée aux idoles, accompagnée de libations de vin. D'autres soulignent l'importance pour le jeune homme d'obéir aux lois du Lévitique, à ses prescriptions concernant les viandes pures et impures, ainsi que la question du sang. D'autres encore soulignent que cette nourriture et ce vin était une expression de la corruption profonde de la cour, où toute morale était piétinée. Et il suffit de lire le début du livre d'Esther, ou le chapitre 5 du livre de Daniel, pour se rendre compte que tout cela est vrai. On peut peut-être ajouter, et pour moi c'est aussi un argument très fort, que dans la mentalité orientale, partager un repas en étant assis d'autant plus à la table d'un beaucoup plus élevé que soi, équivalait à s'engager en quelque sorte en amitié. C'était un geste qui avait tout un sens d'alliance. Et on peut se demander jusqu'à quel point Daniel n'a pas vu derrière cette question de repas un piège. Le risque de perdre sa liberté spirituelle. D'être ensuite redevable à ce personnage qui était son grand patron. Et de devoir ensuite, à cause de cela, acquiescer à tout et n'importe quoi de la part de son suzerain. Vous voyez qu'il y a là donc tout un faisceau de raisons qui ne sont pas sans importance. En tout cas, David dit non. Aussitôt. Il refuse net de pactiser avec l'esprit babylonien. Et il s'inscrit en nombre, en annonce dans sa conduite, de ce que Paul soulignait dans les Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Il faut choisir. Et ici, pour faire le lien avec ce que nous partagions tout à l'heure, nous dirons qu'il n'est pas seulement un amoureux des Écritures. Il n'est pas seulement un passionné de la parole de Dieu. Mais il est de ceux qui pratiquent la parole de Dieu. La parole de Dieu est branchée sur le quotidien de Daniel. Voyez-vous, Daniel m'apparaît comme un jeune homme et un homme qui a des principes divins dans sa vie. Daniel ne fait pas partie de ces croyants qui cherchent les solutions au coup par coup, qui se disent « on verra bien quand le problème se présentera ». C'est un jeune homme qui a une colonne vertébrale parce qu'il a des principes divins, des principes bibliques solides dans sa vie personnelle. Nous devons avoir dans nos vies des principes et les principes des Écritures. Et vous savez que nous sommes dans un temps, et je suis persuadé que c'est ainsi au Québec aussi bien qu'ailleurs dans le monde, où l'on ne veut plus de principes. Et le désordre qui est en train de s'installer dans l'Église de Jésus-Christ, au niveau du mariage, au niveau de la sexualité, et dans tant et tant d'autres domaines, est lié au fait que nous, croyants, nous ne voulons plus de principes divins dans notre vie. Et si nous ne sommes pas armés de principes solides dans notre vie, tôt ou tard, nous allons chavirer lorsque nous serons en face de certains problèmes graves.
Daniel se détermine. Il se situe, il se singularise ouvertement, il se démarque. Aussitôt, il fait son choix. Nous aurons l'occasion de le développer ce soir. Sa décision est intérieure. Elle est volontaire, elle est réfléchie, bien arrêtée, pesée. C'est une décision qui peut être très grave dans ses conséquences. Non seulement ce jeune homme encourt la colère du roi, mais aussi la peine de mort. C'est qu'on ne pouvait pas se conduire n'importe comment avec ces fameux personnages. Et puis, de toute manière, c'est son avenir qui est en jeu. Et je pense à tant de jeunes parmi nous qui pensent à leur avenir. Voilà un jeune qui est prêt à sacrifier un avenir fantastique sur l'autel de l'obéissance au Seigneur. Il est dans une école absolument prestigieuse. En France, c'est l'École nationale d'administration, d'où sortent les grands commis de l'État. Il a devant lui une carrière fantastique. Vous imaginez la tentation de sacrifier la fidélité au Seigneur sur l'autel de la carrière. Et tous les uns et les autres, quel que soit notre âge, surtout dans le monde moderne, où une profession est si vite remise en question, où le chômage frappe à la porte, quel que soit l'âge, quelle que soit la qualification, quelle que soit l'ancienneté dans le métier, tôt ou tard, et plus d'une fois dans notre vie de disciples de Christ, nous arrivons à un tournant, à un carrefour où nous avons des choix de ce genre à faire. Et où Dieu va nous tester. Il mettra à notre disposition tous les moyens de grâce nécessaires pour que nous soyons vainqueurs, ou qu'il soit vainqueur en nous dans la situation. Mais il va nous tester. Et c'est là que nous allons montrer si nous sommes prêts à sacrifier des choses qui nous paraissent légitimes, essentielles et vitales sur l'autel de l'obéissance et de la fidélité, ou si nous faisons le contraire. Et il se pourrait que Dieu ait amené l'un ou l'autre d'entre nous à ce corps, spécialement parce que vous êtes dans une situation de ce genre, ou bien il va vous dire, mais tu as été dans cette situation, et regarde ce que tu as fait. Et regarde les conséquences maintenant. Tu croyais gagner? Regarde finalement tout ce que tu as perdu en faisant de si mauvais calculs. Qu'il vaut bien la peine de réagir comme Daniel? Est-ce qu'il valait vraiment la peine de se battre pour une question de viande et de boisson? Dans ce système babylonien si gigantesque, où Daniel et ses compagnons étaient une toute petite poignée de rien du tout, quelques gouttes dans l'océan de l'Empire babylonien. Mais pourquoi se battre pour des histoires aussi bêtes que celles de la nourriture et de la boisson? J'ai lu à quelque part cette anecdote d'un homme qui, dans l'histoire, aurait essayé de sauver la ville de Sodome de la destruction en avertissant les habitants. Et bien sûr, le peuple ne faisait aucun cas de lui. Et un jour, quelqu'un lui a demandé, mais pourquoi déranger tout le monde? De toute manière, tu ne parviendras pas à les changer. Et cet homme veut simplement répondre ceci, je ne pourrai peut-être pas. Mais je continuerai à crier, à hurler pour les empêcher de me changer. Peut-être certaines déviations dans nos vies, certaines régressions sont précisément liées au fait qu'à un moment donné, nous avons dit, mais pourquoi est-ce que ça vaut vraiment la peine? Qu'est-ce que ça va changer
Que je fasse comme ceci ou comme cela, il y aura si peu de résultats. Oui, mes amis. Sauf que ça a changé quelque chose à votre vie, peut-être dans le mauvais sens.
Daniel et ses compagnons sont une équipe de jeunes gens déterminés à se démarquer coûte que coûte de Jérusalem, de Babylone, pardon, et à vivre dans la sainteté. Et en cela, ils sont un échantillon de ce qui est appelé dans la Bible le reste, et plus particulièrement le reste fidèle d'Israël.
Et vous savez, non seulement ils marchaient à contre-courant de Babylone, mais ils marchaient à contre-courant de la majorité de leur peuple. C'est-à-dire qu'au même moment, non seulement ils étaient incompris des païens de Babylone, mais ils étaient incompris de leurs compatriotes. Et c'est ça ce qui devient difficile aujourd'hui. Je dirais que les claques que nous donne le monde sont plus agréables que celles que nous donnent nos frères.
Et parfois, c'est vrai, c'est difficile de marcher à contre-courant lorsque non seulement on rencontre l'hostilité dehors, mais que l'hostilité finit par venir du dedans.
Vous savez que les plus grandes souffrances dans la vie chrétienne ne sont pas celles qui nous sont infligées par le monde, mais par nos frères et sœurs. Et ce sont celles que nous infligeons par notre tiédeur aussi à nos frères et sœurs.
Et dans l'Ancien Testament, les prophètes ont pris soin de montrer le contraste entre cette petite poignée d'hommes, Daniel et ses compagnons, et les autres. Prenez par exemple Ézéchiel 14, versets 21 à 23. Ézéchiel 14, versets 21 à 23. Qui appartient à cette époque. Ézéchiel 14, 21, 23. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoi que j'envoie contre Jérusalem, mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces, la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Et si vous allez un peu plus loin, au chapitre 36, prenez le chapitre 36, au verset 17 à 21, Ézéchiel 36, verset 17 à 21, Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Vous remarquez le contraste entre le témoignage de ces juifs qui sont mentionnés dans le prophète Ézéchiel, qui se conduisaient de manière abominable, qui scandalisaient les Babyloniens, tellement qu'ils s'étaient identifiés aux nations païennes, au point non seulement de les égaler dans le péché, mais parfois même d'aller plus loin que ces nations païennes dans le péché. Et puis cette petite équipe qui ramait courageusement à contre-courant. C'est cela, choisir Dieu dans le monde moderne. J'aimerais ici souligner l'importance de la vocation d'Israël. Exode 19, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Lévitique 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. » Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi.
Ou dans la bouche du devin Balaam, nombre 23:9, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations.
Parce qu'il est bon de se souvenir ici qu'Israël était un peuple mis à part pour refléter le caractère de Dieu. Et ainsi, préparer la venue du Messie.
La vie du peuple devait trancher sur celle des nations environnantes.
Et Dieu a voulu tout mettre en œuvre pour qu'il y ait ce contraste saisissant d'Israël, lumière des nations, dans un monde de ténèbres.
Alors Dieu s'est révélé de manière toute particulière à ce peuple. Ce fut la gloire du Sinaï, le don d'un certain nombre de lois, de rites, destinés à discerner entre le saint et le profane, le pur et l'impur. L'érection du tabernacle, les fleuves de sang qui coulaient de l'autel.
C'est vrai. La vie d'Israël devait être révolutionnaire par rapport à celle des nations.
Et nous savons qu'Israël s'est détourné de sa vocation peu à peu à contester le règne de Dieu sur lui. Nous savons comment Israël peu à peu s'est identifié aux nations environnantes en pratiquant les œuvres les plus abominables. Quand on pense à Kémosh, Moloch, cette divinité horrible auquel on offrait des sacrifices humains sur les collines, en bordure du temple de l'Éternel. Est-ce que nous réalisons cela? On a, grâce à l'archéologie et à l'histoire ancienne, pu relever des descriptions de cérémonies païennes qui ont été pratiquées par les Juifs. Imaginez un Moloch, statue d'airain creuse, rougie au feu incandescent, et dans laquelle on jetait des enfants vivants. C'est là qu'Israël en est arrivé. On a retrouvé dans certaines régions des Kémosh ou des Moloch aux bras étendus. Et sur ses bras rendus incandescents par le feu, qui grondait à l'intérieur, on posait délicatement des enfants vivants. Il faut le dire. Nous vous aurions pu évoquer longuement ce qu'on a appelé les sacrifices de fondation, qui ont très certainement été pratiqués dans sa décadence par le peuple d'Israël, notamment à l'époque d'Akab, où on choisissait une vierge, ou un vieillard, ou un enfant, un premier-né, un bébé, et où on les mettait dans une jarre. On a retrouvé de ces jarres 90 cm de long, bouchées avec une pierre et un cadavre de bébé, et coincées dans une muraille. C'était la manière dont on inaugurait une cité, une maison, la porte d'une ville. Ceci s'est pratiqué en Israël. Et mes amis, disons-le cet après-midi, ceci se pratique dans l'Église aujourd'hui. Mais bien sûr, quand nous sacrifions nos enfants sur l'autel d'une divinité qui s'appelle meilleur salaire, travaille à deux, plutôt que d'avoir un plus petit salaire et de pouvoir vraiment s'occuper des enfants. Vous ne croyez pas que c'est tout aussi horrible quand on s'appelle enfant de Dieu? Vous ne croyez pas qu'il y a des domaines où il nous est facile de pointer le doigt vers Israël en disant « Mais horreur !» L'avortement se pratique aussi de plus en plus dans nos milieux évangéliques. Et nous devons nous repentir.
Nous devons nous repentir de ces choses.
Et vous savez ce qui s'est passé finalement?
C'est le grand thème du livre d'Ézéchiel. Il est arrivé un moment où ce fut absolument insupportable et où la patience de Dieu vint à son terme. Alors, sa gloire, sa puissance, sa beauté, sa pesanteur, sa gloire quitta Jérusalem. C'est le grand thème du livre d'Ézéchiel. La gloire de Dieu qui quitte la cité de Dieu.
Tout simplement parce que la gloire de Dieu n'est pas attachée à des bâtiments ecclésiastiques. La gloire de Dieu n'est pas attachée à nos salles évangéliques. La gloire de Dieu n'est même pas attachée au camp si beau et qui va vivre une phase d'extension. La Bible affirme la gloire de Dieu est mobile. Elle se déplace. Et elle peut nous quitter. Elle peut nous quitter. Et il se peut que Dieu dise à qui que ce soit d'entre nous cet après-midi, mais où est ma gloire dans ta vie? Où est ma gloire? Où est mon poids dans ta vie? Est-ce que je pèse encore quelque chose dans ta vie? Dans tes choix? Dans tes orientations? Où est ma gloire? Au cœur de ta vie? Sur le seuil? Ou est-ce qu'elle a quitté ta vie depuis un certain temps? Et finalement, Dieu s'est provisoirement détourné d'Israël pour se créer un peuple nouveau, composé de juifs et de païens se tournant vers le Christ, mort sur la croix. Une parenthèse s'est ouverte, celle de l'Église. Dieu a transmis un témoin, un flambeau à l'Église. Et l'Église, c'est le rassemblement des saints. Le rassemblement des saints. Et vous le savez, le mot saint est un mot tellement important dans les Écritures. On l'y retrouve plus de 600 fois. Le rassemblement des saints. Et nous avons à relever un défi. À cause de la haute vocation de l'Église, dont nous sommes pierres vivantes, membres du corps. Quels sont nos choix? Est-ce que nos choix reflètent vraiment ma vocation, notre vocation, nos vocations? Voilà la grande question que Dieu nous pose. Je voudrais terminer simplement en notant la première dimension de la sainteté. Nous verrons les autres ce soir. Toujours en relation avec Daniel. Mais j'aimerais simplement notez que la première dimension de sainteté, la première signification de la sainteté, c'est celle de la purification, du nettoyage de la conscience, par le sang de Christ. Mon frère, ma sœur, ta conscience est-elle purifiée? Et toi qui es en dehors de Jésus-Christ, qui fait peut-être partie de ce monde des sympathisants qui se tiennent à la lisière de l'Église, parfois pendant des années. Jusqu'à quand attendras-tu pour connaître cette purification de ta conscience? Lorsque Christ reviendra,
Et nous l'attendons.
Je l'attends.
Lorsqu'il reviendra, il établira son règne. Et une des principales caractéristiques du règne de Christ, dans sa manifestation ultime, ce sera la sainteté parfaite et absolue.
Et il y a tant de textes qui vont dans ce sens. J'aimerais simplement, en terminant, vous en lire quelques-uns dans cette conclusion. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11.
« Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. » Un terme qu'on appelle générique, qui englobe toutes les déviations possibles de la sexualité.
Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Heureusement, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, acquittés, déclarés justes, considérés comme n'ayant jamais fauté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Galates, chapitre 5, verset 21. Galates, chapitre 5, 21. À partir du verset 19, déjà, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Curieusement, le même mot. En tête, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Éphésiens, chapitre 5, verset 5. Éphésiens 5, 5. Car, sachez le bien, aucun débauché, c'est curieux, c'est à nouveau le même mot qui est en tête, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et puis, nous aurions pu continuer à prendre le livre de l'Apocalypse. Rien de souillé ne pénétrera dans la ville sainte, dans la Jérusalem d'en haut. J'ai relevé avec tant d'intérêt ces passages consacrés aux vêtements. Passage dans l'Apocalypse consacré aux vêtements. 11 mentions des vêtements blancs. L'Église de Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui ont lavé les vêtements de leur cœur dans le sang de Jésus. Oh, je pense à ces camps d'extermination pendant la dernière guerre. Notamment à ce camp de Bergen-Belsen, où à la libération, l'on a retrouvé une centaine de chiens qui étaient destinés à dévorer vivants, si c'était nécessaire, ceux qui auraient réussi à franchir les barbelés électrifiés. Oh, il y en avait des obstacles pour les prisonniers condamnés à une mort certaine qui tentaient de s'évader. S'ils avaient réussi à échapper aux geôliers perchés sur les miradors, aux jets de lumière tournant et continuels, s'ils réussissaient à s'enfoncer dans les bois, il fallait encore qu'ils échappent aux crocs de ces chiens dressés pour tuer. Et ces hommes et ces femmes savaient qu'il n'y avait qu'une seule solution. Rejoindre un petit cours d'eau qui courait à quelques kilomètres de ce lieu terrible d'extermination. S'ils réussissaient à le traverser, en tout cas, les chiens ne pourraient pas les rejoindre. Et j'aimerais le dire cet après-midi, même si nous vivons une conférence d'enseignement de ceux qui appartiennent à Christ, j'aimerais le dire avec force. Tant que le sang de Christ ne passe pas sur nos vies, la puissance des ténèbres nous rejoindra toujours.
Et je voudrais vous encourager, ceux et celles parmi vous qui n'avaient pas encore traversé cette rivière rouge de la vie, à venir vous y baigner, de manière à ce que la puissance des ténèbres n'ait plus rien à voir avec vous, et que vous soyez arrachés, littéralement, comme le dit le texte de l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er, arrachés hors de cette puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour, du Seigneur Jésus-Christ. Cela, c'est la première étape dans la marche de la sainteté. Un changement de vêtements. Un changement de vêtements. Et j'aime, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour que nous le comprenions mieux, terminer cette deuxième étape de la journée dans l'étude par une petite parabole concernant ce vêtement dont Jésus-Christ nous revêt, ce vêtement de sainteté, de justice et d'amour parfait dont Jésus-Christ nous revêt gracieusement, ayant tout payé pour que cela soit possible pour chacun d'entre nous. Et je tirerai cette histoire d'un de mes derniers voyages à Madagascar. Ce voyage s'est situé en 1986, je viens d'y retourner récemment. Mais en 1986, à Madagascar, j'ai vécu une expérience inoubliable dans ce domaine. Un matin, invité de la Ligue pour la lecture de la Bible de Madagascar, j'étais abrité au siège de cette Ligue à une quinzaine de kilomètres de Tananarive. Et j'étais en train de faire ma méditation personnelle dans Matthieu 6, où il est dit notamment « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel » où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et un peu plus bas, j'étais interpellé par le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Et Dieu me parlait ce matin-là, quand le téléphone a sonné. Et on est venu me dire, Maurice, c'est pour toi. Et j'avais au bout du fil un monsieur qui s'est présenté, qui m'a dit « Voilà, je suis venu à vos conférences tous ces derniers jours. » Et quand il m'a dit qui il était, j'ai reconnu en lui, parce qu'on m'avait parlé de lui, un des grands couturiers de Madagascar, converti à Jésus-Christ, un Christian Dior, ou, vous voyez, ces grands couturiers. Et il me disait ce matin-là, voyez-vous, ce matin, quand ma femme et moi, nous nous apprêtions à nous lever, Dieu nous a interpellés. Et il nous a demandé de vous offrir un costume. Alors je lui ai répondu au téléphone, mais est-ce que vous savez ce que je suis tout juste en train de méditer dans la parole de Dieu? Je viens de lâcher Matthieu 6, 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de quoi vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous avons donc pris rendez-vous, et je suis allé une heure plus tard dans l'atelier de ce grand couturier, dans une des principales rues de la capitale. Nous avons choisi le tissu, et puis il a pris les mesures. Et il m'a donné rendez-vous pour un essayage. Je suis rentré, j'ai repris mon étude. Lorsque le téléphone dans la journée a sonné, c'était mon tailleur. Mais mon tailleur avait une voix bizarre et je me suis dit, ouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, il m'a dit, voyez-vous, nous avons un gros problème. Nous étions sur le point de commencer l'assemblage lorsque nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux trous dans le tissu. Des trous faits par les mythes et placés au mauvais endroit. Et je me suis dit dans mon cœur, Maurice, voilà un costume qui est en train de te passer sous le nez.
Mais le tailleur m'a dit, écoutez, revenez. Et on va choisir un autre tissu.
Alors nous sommes allés, je suis allé, nous avons choisi un autre tissu. Nous avons pris rendez-vous pour l'assemblage et pour l'essayage après l'assemblage. Et puis j'ai été travaillé dans mon cœur par ce tissu qui était déjà coupé à ma taille et qui apparemment semblait inutilisable. Et je me suis dit, mais s'il acceptait quand même de bricoler un peu et de me faire quelque chose, je veux bien le payer, ça coûtera de toute manière moins cher. Mais puisque c'est à ma mesure. Alors j'ai osé lui téléphoner après m'être enquis des coutumes pour éviter de le blesser. Et il était catégorique. Rien n'était possible. C'était son honneur de grand couturier qui était en jeu. Alors j'ai raccroché en désespoir de cause et j'ai remis la chose au Seigneur. Et puis le moment est venu pour l'essayage. Et quand je suis arrivé dans l'atelier, c'était la joie. Mon ami avait un sourire merveilleux sur le visage. Et j'ai compris tout de suite. Il m'a dit, vous savez, nous avons trouvé la solution pour le premier costume. Et il venait de créer ce qu'on appelle un prototype. C'est-à-dire un nouveau modèle. Hein ? Avec une petite couture toute spéciale à l'endroit d'un des deux trous les plus importants, et ça allait très bien. Et voilà que je me suis retrouvé, non pas avec un costume, mais avec deux costumes. Et bien entendu, il n'était même pas question que je paye. Vous savez ce qui m'a frappé ? C'est que Madagascar est une des îles actuellement les plus pauvres du monde, à cause du régime politique. Je ne peux pas vous raconter tant de choses que j'ai vécues encore il y a quelques mois. Mais c'était extraordinaire de voir l'amour, l'humour et la générosité de Dieu qui m'offrait deux costumes dans un des pays les plus pauvres du monde. Mais qui en même temps me rappelait une chose essentielle. C'est que dans la garde-robe de Dieu, il n'y a pas de trou. Parce qu'il n'y a pas de mythe au ciel. Matthieu 6. Amassez-vous des trésors où ? Dans le ciel. Là où il n'y a pas de rouille, de teigne, de mythe, ni quoi que ce soit de ce genre. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, et quand nous nous tournons vers Jésus-Christ pour être déclarés justes, acquittés, innocents, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, et quand nous nous tournons vers Jésus-Christ pour être déclarés justes, acquittés, innocentés, Dieu nous voit couverts d'un vêtement parfait. Sans trou. Sans trou. De la justice, de la sainteté, de l'amour, du caractère parfait de Jésus-Christ. Dans sa pauvreté, pire que la pauvreté de Madagascar, dans son humiliation, j'ai été enrichi de manière tellement extraordinaire. Et maintenant, je suis à l'abri de son sang, couvert de sa justice. Vous savez, quand j'étais là à Madagascar, j'étais invité dans un foyer très pauvre. Ils ont installé dans ma chambre un moustiquaire. Un beau moustiquaire. Une véritable boîte de protection. Rectangulaire, là, au-dessus du lit. Parce que j'étais dans une région où il y a beaucoup de moustiques et beaucoup de problèmes à cause de cela. Et j'ai vécu là quelque chose de très intéressant. Les moustiques aiment mon sang. À la maison, ils ne s'attaquent pas à ma femme, mais à moi. Et quand j'étais sous mon moustiquaire, un des moments les plus délicieux que je vivais, c'était celui où j'entendais les moustiques s'approcher. Vous avez déjà entendu un moustique s'énerver ? Ah ! Quand le moteur d'un moustique s'emballe, parce qu'il se heurte au moustiquaire. Oh, quel moment délicieux, vous êtes là, à l'abri. Mais parfois, vous êtes subitement saisi d'angoisse, vous savez pourquoi ? Oh, s'il y avait un trou. Parce que si le moustique réussit à entrer, il aura du mal à sortir. Alors, chaque jour, quand j'entrais dans mon lit, je vérifiais que mon lit soit bien bordé et qu'il n'y ait pas un seul endroit par lequel les moustiques puissent passer. Et alors, je dormais en paix parce qu'il n'y avait pas de trou. J'étais à l'abri des moustiques. C'est notre expérience dans notre vie avec Jésus-Christ. C'est cela la première dimension de la sainteté. Considéré comme juste, acquitté, innocenté, déclaré juste, couvert du manteau de la justice de Christ, à l'abri de son sang. Le cœur lavé, la conscience purifiée. Mais bien aimé, est-ce que c'est l'expérience de chacun d'entre nous? Je vous le demande de la part de Dieu. Si ce n'est pas notre expérience, tournons-nous vers lui. Plaidons coupable et nous serons sauvés. Nous voulons prier. Seigneur, merci d'avoir un jour commencé à bâtir ton Église. Nous te bénissons pour cette invention géniale, extraordinaire, qu'est l'Église. Et nous te remercions pour le sang de Christ, pour le sacrifice suprême de la croix, après une vie parfaite et tellement extraordinaire, qui nous vaut d'être appelés, nous qui t'appartenons, un peuple. Seigneur, merci pour la purification de toutes nos souillures, l'apaisement de notre conscience. Merci pour le revêtement du caractère de ton Fils, de sa justice parfaite. Jamais nous ne saurons assez te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, nous te prions les uns pour les autres. Ô, interviens là où le sang doit passer tout à nouveau pour purifier la coupe. Et interviens là où tu n'as jamais pu intervenir jusqu'ici dans les vies de ceux et celles qui ne t'appartiennent pas parmi nous. Seigneur, tu veux sauver aussi pendant cette conférence. Merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous, dans le prolongement de tout ce que nous avons partagé. Nous te remettons la suite, la fin de cette journée, afin que tu nous bénisses et que nous te bénissions, parce que tu en es digne, en Jésus-Christ.